dans le cadre de la série des femmes d'exception aujourd'hui avec Valérie qui va nous présenter
Rosa Parks.
On écoute.
Alors, Rosa Parks, elle est née le 4 février 1913 et elle décédera le 24 octobre 2005. C'est une femme afro-américaine et bien sûr, on ne la présente pas ou plus. C'est une figure emblématique du mouvement contre la ségrégation dans le sud des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la base pour qu'on puisse connaître et entendre et faire parler de Rosa Parks? Elle est dans un bus et le chauffeur lui demande de céder sa place à un blanc comme l'exige la loi locale. Elle refuse et reste assise. Elle sera condamnée. Indigne, elle deviendra l'icône de la lutte pacifique pour les droits des Noirs le 1er décembre 1955. Alors, sa citation préférée. Si nous baissons les bras, nous sommes complaisants envers les mauvais traitements, ce qui les rend encore plus oppressifs. Alors, le lien, on ne peut pas s'empêcher de penser éventuellement le lien de Rosa Parks avec Martin Luther King. Donc, le pasteur pacifique soutient Rosa Parks. Il organise avec elle des manifestations et un boycott des bus de Montgomery. En 1963, il organise une grande marche sur Washington pour réclamer des droits identiques pour les Noirs et les Blancs. La devise de Rosa Parks, « Je voudrais que l'on se souvienne de moi comme une personne qui voulait être libre pour que les autres le deviennent aussi. » D'héritage en héritage, elle a catalysé le mouvement des droits civiques et a conduit à des changements législatifs de nos jours, y compris l'interdiction de la ségrégation dans les transports publics aux États-Unis. Et enfin, elle laissera un message, ne baisse jamais les bras devant l'injustice.
Voilà un parcours passionnel avec Rosa Parks qui est
tout à fait
quelque chose qui permet surtout de faire avancer le monde.
Moi, ce que j'ai retenu, bon, ce n'est qu'une petite anecdote. Elle naît en 1913, elle décède en 2005. C'est pas très loin, hein. 2005, ça n'a fait que 20 ans. Et avec le recul, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chemin de fait pour lutter justement contre cette ségrégation et le racisme dans le sud des États-Unis.
Bien sûr, mais je crois que ce combat n'est pas tout à fait fini.
Non, il n'est pas fini. Il faut faire le lien aussi avec ce qui se passe et ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'apartheid. Comme quoi la lutte continue et elle continue, ce qui est très intéressant, sur les différents continents.
Alors, il n'y a qu'à voir certains matchs de foot.
Oui.
Entendre certains commentaires de la part du public, de certaines personnes dans le public, pour savoir que cette lutte est toujours en mouvement. Mm. Autour de Marie-Ange, maintenant, qui a choisi qui?
Alors, j'ai choisi Myriam Makeba, de son vrai nom Zenzile Makeba Nguamoma, qui est née le 4 mars 1932 à Johannesburg, de père instituteur et de mère domestique. Sa mère accouche seule et coupe elle-même le cordon ombilical. Prénommée Zenzi, elle n'a que quelques jours quand sa mère est emprisonnée pour avoir brassé de la bière pour gagner de l'argent. En 1948, les nationalistes afrikaners gagnent les élections et mettent en place le régime de l'apartheid. Makeba épouse James Kubé en 1950. À 17 ans, elle accouche de sa fille Bongi. Elle est diagnostiquée d'un cancer du sein traité par sa mère de manière non conventionnelle. Son mari la quitte et ils divorcent en 1952. À 20 ans, bonne d'enfant et laveuse de taxi, elle vit seule avec sa fille et sa mère. Elle commence à chanter avec le groupe Cuban Brothers, puis chorisse dans le groupe Manhattan Brothers. Elle devient vite une vedette et se sert de sa notoriété pour dénoncer le régime apartheid et les conditions de vie misérables du prolétariat noir. En 1956, elle écrit son plus grand succès, Pata Pata, qui fait le tour du monde. En 1959, elle joue dans une comédie musicale, King Kong, et est contrainte à l'exil pendant 31 ans à cause de son apparition dans le film Come Back Africa. Elle est déchue de sa nationalité sud-africaine et épouse Sonny Pillay. Sa mère décède en 1960 et elle ne peut même pas assister aux obsèques, étant donné qu'on l'a bannie du pays. Il lui faudra attendre 1990 pour pouvoir revenir en Afrique du Sud lors de la libération de Nelson Mandela. Elle continue de prononcer des discours anti-apartheid. Elle chante en zoulou, en swahili, en tswana et en arabe. Elle a trouvé refuge en Algérie. Ses chansons prônent la tolérance et la paix. Puis elle part vivre aux États-Unis où elle s'engage avec le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale. Le président Jules Nair de Tanzanie lui remet un passeport. En 1966, elle reçoit un Grammy Award pour son disque « An Evening with Harry Belafonte ». Son mariage en 69 avec Stokely Carmichael lui cause des ennuis aux États-Unis et elle est obligée de s'exiler en Guinée cette fois. Divorcée en 1980, elle reprend sa tournée internationale. Après la mort de Sékou Touré, elle part s'installer en Belgique, poursuivant ses engagements. En 1987, elle écrit son autobiographie « My Story ». En 2008, sur scène, elle est victime d'un infarctus à 76 ans. Sur scène, en Italie. Angélique Kidjo lui avait parlé juste avant sa montée sur scène. Elle fut décorée par la France au titre de commandeur des arts et lettres en 1985. Elle disait « Nous devons grandir, les Noirs et les Blancs doivent apprendre à se connaître et vivre ensemble. » Je note, en Afrique, elle a œuvré pour la lutte contre les enfants soldats et le sida. Voilà toute l'histoire. Enfin, il y en a encore plein à dire, mais
c'est une partie de l'histoire de Myriam. C'est très chaotique, en tout cas.
Très, très chaotique, oui. Ouais.
Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas et qui mérite d'être connu.
Moi, je la connais parce que je chante un peu ses chansons en swahili.
D'accord.
Ouais. Elle mérite vraiment ce sur quoi nous travaillons, à savoir c'est une ça. Femme d'exception. On ne pouvait pas passer outre et vraiment, c'est un très, très bon choix de ta part.
C'est bien de sortir un petit peu aussi des sentiers battus bien avec sûr. Les noms ultra connus, ultra cités.
Oui, c'est vrai qu'elle est... Moi, je la connais, mais c'est vrai qu'elle est moins connue, effectivement. Comme ayant œuvré voilà, pour toutes ces luttes.
C'est un sujet d'actualité. Hein.
Complètement, bah oui.
Voilà.
Intemporel. Et moi, j'ai choisi de vous parler de Gisèle Halimi, parce qu'on en avait parlé lors de l'émission le 8 mars. Donc, c'est l'avocate qui a plaidé, bien sûr, la liberté. C'est une petite fille qui est née en 1927 à la Goulette, en Tunisie. Elle s'appelait Zeiza Gisèle Élise Taïeb, mais le monde entier allait bientôt la connaître sous un nom qui ferait trembler les injustices, Gisèle Halimi. Dès l'enfance, elle sent que quelque chose cloche. Pourquoi son frère a tous les droits et pas elle ? À 10 ans, elle fait la grève de la prière pour protester contre les inégalités. À 16 ans, elle refuse un mariage arrangé. À 18 ans, elle quitte sa famille pour étudier le droit à Paris. La rébellion, c'est son carburant. Devenue avocate, elle n'est pas du char à défendre les puissants. Elle veut sauver les oubliés, les opprimés, les femmes bâillonnées. Pendant la guerre d'Algérie, elle défend les militants du FLN, un choix courageux qui lui vaut critiques, menaces et admiration. Mais c'est dans le combat féministe qu'elle enflamme vraiment la scène. En 1972, elle défend Marie-Claire, une jeune fille jugée pour avoir avorté après un viol. Son procès devient un tremblement de terre. Avec Simone de Beauvoir, elle crée le mouvement Choisir la cause des femmes pour dire haut et fort « Le corps des femmes leur appartient ». Gisèle écrit aussi, avec la même fougue qu'elle plaide, dans « La cause des femmes » ou « Une farouche liberté », elle partage ses idées, ses combats, ses espoirs. Pas de jargon, juste de la vérité brute, un style tranchant comme une épée. Plus tard, elle entre brièvement en politique, toujours pour porter la voix des sans-voix. Elle milite pour l'égalité, pour la justice, contre toutes les formes de domination. Gisèle Halimi s'éteint en 2020, mais elle laisse derrière elle un héritage incandescent, celui d'une femme qui n'a jamais baissé les bras, une héroïne moderne, une guerrière du droit, une semeuse de liberté. On a tous en tête le discours télévisé de Gisèle Halimi qui était face à une militante anti-avortement et qui lui disait clairement « c'est notre corps, on fait ce qu'on veut de notre corps ».
Tout à fait.
Voilà un destin qui méritait d'être mis et souligné aussi.
Oui.
Merci à vous toutes.
Merci. Merci.